J'aimerais regarder avec vous ce matin la parole de Dieu, la parole de Dieu. J'espère que cette parole, elle est importante pour vous, parce qu'en tant que chrétiens, nous reconnaissons que la parole de Dieu est la parole, que la Bible est la parole de Dieu, de la première page à la dernière. Et j'espère que c'est votre conviction ce matin, et qu'elle ne contient aucune erreur. Mais je crains que beaucoup ne savent pas pourquoi ils croient cela. Alors, il est donc impératif que nous sachions sur quoi s'appuie notre croyance, et si ce sur quoi nous nous appuyons est digne de confiance. Je vous invite à tourner dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est une première partie d'un message qui probablement contiendra 3. C'est un verset qui est riche en lui-même, et on va lire le verset 16 qui décrit parfaitement bien ce qu'est la parole de Dieu. Verset 16. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à celui qui va le remplacer quand Paul va mourir, à Timothée, qui est son disciple, celui qui va former pour le remplacer. Et Paul, au chapitre 16, dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Paul ne dit pas, il y a une partie des Écritures qui est inspirée et l'autre ne l'est pas. Il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Cela signifie que Dieu a dirigé et transmis à des êtres humains sa parole en utilisant les personnalités et en veillant à ce qu'elle soit mise, finalement, par écrit, telle qu'elle a été révélée. Il les a donc guidés dans le choix des mots, et ce qu'ils ont écrit correspond parfaitement à ce que Dieu leur a dit. Donc, c'est béni aussi de voir que Dieu, à travers la personnalité de chacun, a soufflé, a transmis sa parole à des individus, ce qui fait qu'on a, du style poétique, on a du style direct, on a les évangiles et on a les différents livres dans la parole de Dieu. Et lorsque Paul dit que les Écritures sont inspirées, il veut dire qu'elles sont le souffle de Dieu, comme si le Dieu Tout-Puissant se tenait derrière la chair et prononçait ses paroles. Je parle au niveau, je ne me prends pas pour Dieu, hein. Je suis en train de vous dire que quand on cite des Écritures, on doit quand même être convaincu que ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Maintenant, mes commentaires, ça c'est une autre chose, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein. Tant aussi longtemps que vous ne pensez pas que c'est anti-biblique, vous pouvez quand même les accepter, mais ce qui est sorti, ce qui est annoncé dans la parole de Dieu, ça on ne peut pas discuter puisque c'est Dieu qui parle. Amen? Ça c'est vraiment important, hein, qu'on peut se rappeler. Et le serviteur de Dieu qui se tient derrière la chair, bien, c'est une chose, c'est qu'il ne parle pas en son nom, il parle au nom de Dieu et il y a une lourde responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit respecter cette parole parce qu'il aura des comptes à rendre au Seigneur. Maintenant, d'un autre côté, ceux qui entendent cette parole auront des comptes à rendre au Seigneur de ce qu'ils auront fait avec la parole qu'ils auront entendue. Alors, c'est du donnant-donnant aussi, hein. Vous n'êtes pas là que des simples spectateurs, pardon, mais vous êtes aussi des participants. Et participants, ça veut dire, écoute, Seigneur, tu m'as parlé ce matin, eh bien, je reconnais que c'est ta parole et je prends la décision de mettre en pratique cette parole. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Et en ayant cela en tête, lorsque vous lisez la parole, vous êtes en train d'entendre Dieu souffler sa parole dans votre cœur. Vous savez, il y a une expression qui, sûrement qu'on dit ça ici aussi, hein? Écoute, ne lui souffle pas la réponse. Hein? Ne lui souffle pas la réponse. Et je trouve que l'exemple est beau. Quand on lit la parole, hein, et qu'on se pose des questions, et qu'on voudra avoir une réponse à nos questions, Dieu nous souffle la réponse dans notre cœur. Dieu souffle la réponse. Pas juste dans nos oreilles, mais les oreilles de notre cœur. C'est ça le souffle de Dieu. Dieu connaît nos besoins, on ouvre la parole, et avant de l'ouvrir, on a pris un temps de prière, on a dit, Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais ma situation. Seigneur, tu sais que je veux grandir dans ta parole, tu sais que je veux mieux te connaître, Seigneur, parce que je te connais presque pas. Et Seigneur, ce matin, je vais lire ta parole. Je la lis depuis quelques mois de façon suivie. J'ai besoin de réponse, Seigneur, et ce matin, je veux que tu me répondes. Et vous lisez, à un moment donné, vos yeux restent fixés sur un verset. Et là, bizarrement, ça fait 20, 30 fois que vous lisez ce verset. Et là, il y a une lumière qui se fait dans votre cœur. Dieu vous éclaire. Dieu vous donne la réponse. Et c'est ça le souffle de Dieu. Et la réponse qu'on a, bon, on sait que cette réponse-là, Dieu ne veut pas nous induire dans l'erreur parce qu'il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Et Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'est pas un menteur non plus. Alors, c'est magnifique parce que quand Dieu souffle dans notre cœur la réponse qu'on cherchait, on sait que ça correspond à la vérité. Amen? Ah oui, c'est important, ça. On n'y pas n'importe quel livre. C'est pas un livre religieux. C'est pas un livre sacré parmi tant d'autres livres sacrés. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous avez besoin d'avoir une conviction que c'est la parole de Dieu. De ce couvercle, aller à l'autre couvercle. Sinon, tôt ou tard, vous allez faire comme beaucoup de chrétiens. Vous allez finir par remettre en question les vérités contenues dans la parole parce que vous ne voulez pas vous y soumettre. et que cette parole, elle vous confonde parce que vous avez un péché dans votre vie que vous ne voulez pas abandonner. Et quand Dieu dit, écoute, ça pour moi, c'est péché, eh bien, c'est un peu... c'est qui dit ça? Ah, c'est Pierre. Oui, mais Pierre a déjà renié Jésus. Hein, donc, Pierre, je ne sais pas s'il savait ce qu'il disait. Hein. Mais les gens sont comme ça. Hein, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Hein. Et les gens peuvent en venir à remettre en question. On commence par un verset et on peut remettre en question tout le reste des Écritures. Hein. Alors, on peut avoir cette conviction dans votre cœur et j'espère que c'est la vôtre aussi ce matin, que la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Amen. On va prier. Hein. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes conscients que nous présentons devant toi. Non seulement pour entendre, Seigneur, des paroles d'un livre sacré, mais que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est vivant et non pas le Dieu des morts, veut s'adresser à ceux qu'il a ressuscités, Seigneur, à travers la nouvelle naissance. Et Seigneur, nous voulons entendre de toi. Seigneur, nous ne voulons pas entendre les commentaires d'un homme, mais nous voulons ouvrir notre esprit afin que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu connais tous les besoins des gens ici présents. Et Seigneur, je voudrais que tu puisses répondre à tous ces besoins. Tu as entendu les prières tantôt, Seigneur. Et tu vois certaines personnes qui ont prié, qui voudraient te connaître davantage. Seigneur, je sais que ton plus grand désir, c'est qu'on te connaisse davantage, Seigneur, et que tu puisses répondre à la prière des uns et des autres ce matin. Bénis ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Amen.
Amen.
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, dit Paul. Pas pour enseigner l'erreur, pas pour enseigner une moitié de vérité, pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire afin qu'il puisse arriver, hein, le texte grec, c'est afin qu'il puisse arriver à maturité et être ainsi parfaitement préparé et équipé pour accomplir une bonne œuvre. Hein. C'est ce que le texte biblique fait ressortir ici. Alors, Dieu veut nous équiper, hein? Pas avec un marteau, une aiguine. On dit ça, une aiguine, ici? Non? Oui. OK, une scie à main. Hein? Bon, là. Okay. Ça reste une aiguine au Québec, mais ici, c'est une scie à main. Donc, ça va. Hein? Et c'est français, hein? Français, merci. Français, hein? C'est comme escabelle, escabeau. Au Québec, on dit un escabeau. Je suis arrivé ici, on m'a dit escabelle. Donc, on féminise escabeau pour escabelle. Mais dans le dictionnaire, je me demande si escabeau, c'est pas plus... C'est pas plus utilisé qu'escabelle. Mais bon, il y a du belgicisme aussi, hein, c'est vrai? C'est vrai. Alors, moi, j'aurais pensé qu'escabelle, c'était petit, puis escabeau, c'était grand. Voilà, excusez. Bon, je viens d'une autre époque, hein. Je sais que vous pardonnez facilement, voilà. Voilà. Alors, votre façon de vivre votre vie chrétienne sera déterminée par la certitude que vous avez que la Bible est la parole de Dieu. Et votre salut dépend de la foi que vous avez dans cette même parole. Frère, c'est ça, c'est très important. Ça, c'est ma conviction et ce qui me permet, malgré des épreuves, malgré tout ce que je vis, de garder ma confiance dans la parole de Dieu. Votre façon de vivre votre vie chrétienne. Quelle est votre façon de vivre votre vie chrétienne aujourd'hui? Eh bien, votre façon de vivre votre vie chrétienne est déterminée par la certitude que vous avez que la Bible est la parole de Dieu. Il est difficile de dire que je crois que la Bible est la parole de Dieu si je continue malgré tout à pratiquer un péché. Je peux tomber, aucun problème, je parle de pratiquer un péché. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi dans la parole. Et votre salut dépend de la foi que vous avez mis dans cette parole. Donc, si vous croyez sincèrement que la Bible est la parole de Dieu, vous allez faire tous vos efforts pour obéir à cette parole qui vous amène à changer d'attitude, à changer de comportement et à vivre comme Dieu vous le demande. Encore une fois, il est possible que vous chutiez, mais selon la première épître de Jean, ça doit être l'exception et pas la règle de tous les jours. Amen. L'Évangile révèle comment Dieu les range les hommes juste devant lui. C'est par la foi du commencement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi c'est important de lire la parole. Elle me révèle comment je dois vivre comme Dieu le demande. Et s'il y a quelque chose que je lis, que je fais, qui est contraire à la parole, eh bien, Dieu me demande, si je suis né de nouveau, de corriger. Voilà pourquoi je dois savoir si ce que je fais, si je veux savoir si ce que je fais est bien ou mal, non seulement le Saint-Esprit va me convaincre de péché, de justice et de jugement, mais aussi la parole, l'Esprit, sanctifie, la parole nous dit, c'est ce que Jésus dit, hein? L'Esprit sanctifie. Donc, c'est l'Esprit qui nous instruit pour nous amener à vivre comme Dieu nous demande. Maintenant, il faut être convaincu que ça, c'est la parole de Dieu. Et que ce n'est pas un livre sacré parmi tant d'autres, comme on essaie de nous faire croire aujourd'hui. L'assurance que vous avez d'être sauvé vient de la parole de Dieu. Et comment je sais que je suis sauvé, frères et sœurs? Ce n'est pas parce que je le ressens dans mon cœur. Quand les gens me disent, moi, je le ressens dans mon cœur. Mais non, hein? Tu ressens quoi? Tu peux ressentir n'importe quoi, hein? Qu'est-ce qui dit que ça ne vient pas du diable, que ça ne vient pas de Dieu? La vie chrétienne, ce n'est pas une question de sentiment, hein? C'est une question de foi. Il y a tellement de chrétiens qui vivent par les sentiments, qui sont déçus de Dieu, parce qu'ils n'ont pas senti que Dieu les aimait autant que les autres. Non, hein? La Bible, elle nous dit que, car Dieu a tellement aimé le monde, car Dieu vous a tellement aimé, tellement aimé, tellement aimé. Alors, on n'a pas besoin de sentir si Dieu m'aime ou pas. La Bible, elle est claire, car Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé Jacques, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, et le quiconque pour moi, en tout cas dans le grec, ça n'exclut personne. Dieu n'a pas de préféré. Dieu nous aime tous de façon égale. Alors, la vie chrétienne, je le répète, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Je ne nommerai pas qui. Il y a quelqu'un qui est venu ici pendant quelque temps et qui a fait plusieurs églises dans sa vie parce qu'il vit par les sentiments. Et il me disait, j'ai donné jusqu'au 30 juillet à Dieu pour répondre à ma prière qui me montre laquelle est la vraie église. Sinon, j'abandonne tout. Et ça fait plus que 10 ans qu'il fréquente les églises. Et c'est quelqu'un qui vit par les sentiments. Il a besoin de sentir que Dieu y a parlé. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous parle. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous déforme pour mieux nous former à l'image de Jésus-Christ. Hein. C'est à travers la parole. Et c'est plus difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui que les chrétiens du premier siècle, parce qu'à travers toute la technologie qu'on a, hein, on a des cerveaux qui sont vraiment paresseux. Hein. On est planté devant la TV. On n'a pas besoin de faire de gros efforts, hein, pour être planté devant la TV. Il y a deux muscles qui fonctionnent, les deux yeux. Hein. C'est tout, hein. Le reste ici, c'est en stand-by, hein? Ça ne bouge plus. Hein? On ne te demande pas de penser, on te demande de croire que tout ce qui se disait à la TV maintenant, c'est la vérité. C'est vrai, hein? On ne te demande même pas de remettre en question ce qui est à la télévision, c'est que tout ce qui est à la télévision, ce qui se dit à la télévision, ce qui se voit à la télévision, c'est la vérité. Et c'est un piège pour nous, quoi. C'est vraiment un piège. Parce que la parole, elle nous demande de faire quand même des efforts. Efforcez-vous, dit Paul. Efforcez-vous. Il utilise souvent le verbe efforcez-vous. On doit faire un effort. Et c'est important pour nous si on veut grandir. On doit faire un effort. Comment je sais que je suis sauvé? Ce n'est pas parce que je le ressens dans mon cœur, mais plutôt parce que je m'appuie sur ce que Dieu dit dans sa parole concernant le salut. Dans 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 13, Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, pas que je vous cache, que je vous sachiez, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu, qui avez cru au nom du Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. » Si vous avez cru au nom du Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Si vous avez cru que le seul moyen pour être sauvé du jugement à venir, d'être sauvé de vos péchés du jugement à venir, vous n'avez pas placé votre confiance dans une religion, mais dans une personne, uniquement dans une personne, la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Christ a versé son sang pour effacer tous nos péchés. Pourquoi Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn et qu'il a accepté celui d'Abel? Abel, Adam, il a sûrement dit, écoute, tu vas avoir tes péchés très effacés, que tu dois offrir un sacrifice, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Abel, c'était un homme juste et droit. Dieu a béni son sacrifice. Caïn s'est dit, moi, hey, la méthode de Dieu, tiens, voyez, moi j'en ai une bonne, moi. Je vais travailler de mes mains, les œuvres, hein, faut que je gagne, hein, faut que je gagne la sympathie de Dieu, hein. Si je veux gagner le ciel, hein, si je veux qu'il me laisse rentrer au ciel. Il a creusé, mais il a travaillé comme un cinglé, hein, quand même. Hein. Il a dû cercler, il a dû retourner la terre, il a dû mettre la semence, il a dû faire pousser des choses, enlever la... Je ne sais pas s'il y avait de la mauvaise herbe. Oui, il y avait de la mauvaise herbe, c'était la chute. Il a enlevé la mauvaise herbe et tout. Et tout, hein? Et tout! Et là, vous imaginez, il va transpirer, hein? Parce que Dieu avait dit, écoute, c'était la sueur de ton front que tu vas gagner ta croûte dorénavant. Hein. Il a dû travailler comme un saint. Imaginez, il a passé une saison complète à travailler, à retourner la terre. Hein. Et là, il arrive, il est content, quoi. Ah, le Seigneur va accepter ça. Ah non. Où est le sang, Caïn? Où est le sang? Où est le sang, Caïn? Et quand on va comparaître devant Dieu au ciel, hein, il va nous poser la même question. Hein. Sur la base de quel sacrifice je peux te laisser entrer au ciel? sur la base de tes œuvres ou sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, Christ a versé son sang pour toi. Et c'est la seule réponse qu'on peut donner. Il n'y a aucune religion au ciel qui va... Ils vont tous disparaître hein, devant le trône de Dieu, les religions. Il n'y en a aucune qui est bonne. Hein. Parce que si vous vous rappelez bien, hein, c'est la religion qui a fait condamner Jésus. Hein. Alors, Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Hein. Toutes les religions utilisent le nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Hein. Au contraire. Hein. Il dit, si tu veux être aussi religieux que Caïn, travailler, montrer que tu es une bonne personne pour gagner ton ciel, comme j'ai fait à Caïn, parce que moi je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, je vais te rejeter quand tu vas comparaître devant moi. Et tu vas trouver ça dur, parce que je vais te montrer, pas la porte du paradis, mais les portes de l'enfer, qui te seront grandes ouvertes. C'est vraiment important qu'on saisisse ce point-là. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ma croissance spirituelle dépend de la parole de Dieu et non pas de mes capacités naturelles. Voilà Pierre, pourquoi Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez, que vous soyez sauvés. Le lait spirituel est pur, le lait spirituel est pur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'à un moment donné, il faut arrêter de boire du lait spirituel et manger de la nourriture solide. C'est-à-dire arrêter de s'en tenir simplement à la base, mais de vouloir grandir. Hein? Vouloir grandir. Il n'est pas normal d'avoir un gars de 15 ans qui dort toujours dans sa couchette de bébé quoi, hein? Et qui boit du lait maternisé. Vous allez tous me dire, mais il n'est pas normal, là. Il n'a pas grandi le bonhomme. Hein? C'est vrai, c'est pas vrai. À un moment donné, on doit croître. Hein? Et j'espère que c'est... Je sais bien que dans le cœur des mamans, on voudrait tous qu'il y en ait un parmi le groupe qui reste bébé pour qu'on puisse le dorloter. Mais ça ne serait pas normal, quoi. Qu'à 25 ans, on l'ait encore dans les bras. D'abord, il serait trop pesant, mais qu'on aille toujours dans les bras pour le dorloter, quoi. Donc, même l'auteur de l'Épître aux Hébreux, spirituellement parlant, avait compris ce principe. Il dit, qu'il faut arrêter de boire du lait spirituel et manger de la nourriture solide. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Et votre capacité spirituelle provient et dépend de la connaissance de ce que vous avez de la parole de Dieu. De la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Il y a une puissance impressionnante dans ce livre. Les gens suivent toutes sortes de thérapies, toutes sortes de choses pour être délivrés. Ils viennent au Seigneur Jésus, demandent la délivrance, Dieu les délivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans ce livre. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans celui qui est la parole de Dieu. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus délivre encore aujourd'hui. Amen. Je vais maintenant vous donner 6 raisons. On va en prendre juste 4 ce matin. 4 raisons parmi les 6. On regardera les 2 autres un autre tantôt. Pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu? Nous en verrons 4 ce matin. Lorsque j'ai commencé à lire ce livre avec un cœur ouvert, j'ai cru davantage que c'était la parole de Dieu. Et plus je la prêche, et plus je crois davantage en elle que dans le passé. Et chers amis, j'espère que vous avez la certitude ce matin que la Bible est la parole de Dieu. Voici les raisons pour lesquelles je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu à cause de sa précision scientifique. La parole de Dieu nous dit, Job chapitre 26, verset 7, que c'est Dieu qui étend le nord du ciel sur le vide et qui suspend la terre au-dessus du néant. Donc, il n'y a rien qui tient le ciel, il n'y a rien qui tient la terre. Il n'y a rien qui tient la terre. Job a eu cette révélation-là. Job, c'est un vieux de la vieille. Hein, il a vécu longtemps avant beaucoup de nos prophètes. Hein. Comment Job a-t-il pu savoir que la Terre était suspendue dans le vide avant même l'âge moderne de l'astronomie et le début de l'envoi des navettes spatiales? C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé, et Sir Isaac Newton a découvert cela en 1687. À l'époque du prophète Isaïe, les scientifiques ne connaissaient pas la topographie de la Terre. Mais Isaïe va dire dans Isaïe chapitre 40, verset 22, « Le Seigneur est assis au-dessus du cercle de la Terre. » Comment Isaïe a-t-il pu savoir que Dieu était assis au-dessus du cercle de la terre? Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Et les hommes ont découvert que la terre était ronde au 16e siècle. Dans Genèse chapitre 15, verset 5, Dieu dit à Abraham que les étoiles dans le ciel étaient innombrables. À son époque, Abraham pouvait voir d'où il se trouvait, du coin de la terre où il se trouvait. Il pouvait voir à peu près 1200 étoiles dans le ciel. S'il avait voulu se mettre à compter pendant une nuit le nombre d'étoiles qu'il voyait, là où il était, il était dans le Moyen-Orient, il ne pouvait pas voir celle qui était en Amérique, hein. Mais là où il était, il pouvait en compter à peu près 1200. Grâce au télescope, nous savons maintenant qu'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. Et Dieu annonce à Abraham que les étoiles qui sont dans le ciel sont innombrables. Nous pourrions énumérer d'autres domaines que la Bible traite, mais ces trois exemples suffisent pour nous montrer la supériorité du message de la Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu à cause de sa précision historique. Pendant des années, les hommes ont affirmé qu'un endroit qu'on appelle Ur en Chaldée, n'avait jamais existé. La preuve a été faite par la suite que cette ville a déjà existé. On a trouvé une tablette en argile dans la tombe d'une femme riche au Yémen qui confirme que Joseph a vraiment dirigé l'Égypte. Sur cette tablette, il est écrit que les efforts entrepris par cette femme pour acheter du blé en Égypte à un homme qui s'appelait Joseph. Des briques fabriquées sans paille ont été trouvées en Égypte. On ne fabriquait jamais de briques sans paille à l'époque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour faire transpirer un peu plus les Juifs, le pharaon avait exigé à une époque qu'on enlève la paille, qu'ils cherchaient eux-mêmes la paille s'ils pouvaient en trouver pour fabriquer des briques. On a trouvé des briques sans paille, construites sans paille en Égypte. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire qui est racontée dans le livre de Daniel au chapitre 5? C'est le roi Balthazar qui offre un grand banquet à des milliers de hauts fonctionnaires, à ses femmes et à ses femmes de second rang. Et soudain, il y a une main horrible qui apparaît, qui vient de nulle part et qui commence à écrire sur un mur. Ça doit être fatigant, ça, hein? Vous êtes chez vous, en train de regarder la TV, vous envoyez une main qui est sur votre mur, qui commence à écrire des choses. C'est embêtant, hein? C'est embêtant. Soudain, là, cette main, elle écrit quelque chose sur le mur. Là, le roi, il est troublé. Il demande à quelqu'un interprète ce qui avait été écrit. On alla chercher Daniel, qui va en donner l'interprétation. Le roi Balthazar ordonna aussitôt de revêtir Daniel d'habits d'apparat et de lui passer un collier autour du cou, parce que Daniel avait expliqué le message qui avait été écrit sur le mur. Il fut aussi proclamé que Daniel occuperait la troisième place dans le gouvernement du royaume. C'est important ce que je vous dis là. Le roi Balthazar et que Daniel occupe la troisième place, c'est-à-dire la troisième place la plus élevée dans le royaume. S'appuyant sur les dossiers babyloniens, les historiens affirmèrent que cet événement n'avait jamais eu lieu. Selon les dossiers, le dernier roi de Babylone n'était pas Balthazar, mais un homme qui s'appelait Nabonidas. Ils affirmèrent donc que la Bible était dans l'erreur en rapportant un tel événement, puisque dans leur recherche, ils n'avaient trouvé aucun dossier qui parlait du roi Balthazar. Au fil des années, les pelles des archéologues ont continué à faire leur travail. En 1883, on découvrit une inscription sur une pierre angulaire d'un temple construit par le roi Nabonidas au dieu Ur. Voici ce qu'on peut lire sur cette pierre. « Puis-je, Nabonidas, roi de Babylone, ne pas pécher contre toi, comme ce fut le cas pour mon fils premier-né Balthazar, que j'affectionnais tout particulièrement. » À partir de d'autres inscriptions, nous apprenons que Balthazar et Nabonidas dirigeaient tous les deux, à l'époque de Daniel, dirigeaient tous les deux le royaume de Babylone. Nabonidas voyageait tandis que Balthazar demeurait au palais pour diriger le royaume. Maintenant que nous savons que Balthazar et Nabonidas dirigeaient tous les deux le royaume de Babylone, il est logique que Balthazar dise à Daniel au verset 29 qu'il occuperait la troisième place dans le royaume de Dieu. Quelle merveilleuse pépite de vérité se trouvait cachée dans la parole de Dieu, frères et sœurs. On ne comprenait pas pourquoi on avait dit, c'était écrit que Daniel occuperait la troisième place. Il y avait déjà deux rois. Un qui voyageait et un qui siégeait. Et on lui offre la troisième place, l'égalité des rois. C'est extraordinaire. D'abord, on remet en question la réalité de Balthazar, qui n'avait jamais vécu. On découvre des inscriptions à travers les archéologues. Et ça vient confirmer entièrement ce que les Écritures disaient. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. La mort de Jésus a été prouvée comme étant un fait historique. On pourrait continuer ici pendant des heures à démontrer avec quelle précision la Bible rapporte des faits qui ont été niés pendant des années par les historiens et dont les découvertes archéologiques ont confirmé les affirmations de la Bible. Voici la troisième raison pour laquelle je crois que la Bible est la parole de Dieu, à cause de la merveilleuse unité de la Bible. La Bible est un livre qui a le même message à partir de la première page jusqu'à la dernière page. Vous vous dites peut-être, eh bien, ce n'est pas quelque chose de rare en soi. Permettez-moi de vous dire quelque chose concernant la Bible. La Bible est un livre qui contient 66 livres en elle-même. 39 livres appartiennent à l'Ancien Testament, 27 livres appartiennent au Nouveau Testament. Et la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans. Pensez cela. Pensez-y. 1600 ans. Il y a des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Jamais rencontrés. Et quand vous lisez leurs livres, à tous, il y a le même esprit qui circule à travers les gens, pourtant des gens de personnalités différentes. C'est ce que j'ai dit au début de mon message. Et quand vous regardez, vous faites un survol de tous ces livres, c'est le même esprit qui parle. C'est pas l'esprit de David, c'est pas l'esprit d'Isaïe, c'est l'esprit de Dieu qui parle à travers Isaïe, qui parle à travers David. La Bible fut écrite par 40 auteurs différents dans 13 pays différents et sur 3 continents différents. La Bible fut écrite par des gens provenant de milieux sociaux différents. Certains étaient des bergers, d'autres des rois, d'autres encore des soldats. Certains étaient des prêtres, des pêcheurs, des universitaires, des historiens, des professionnels et des ouvriers ordinaires. Parmi ces 66 livres écrits en 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen et le grec, certains furent écrits en prison, d'autres dans les champs ou dans les déserts. Certains furent écrits dans des grottes, dans des palais, sur des bateaux ou encore dans les maisons. Vous ne pouvez pas trouver un autre livre ayant été écrit par un aussi grand nombre de personnes qui, sans se connaître, vont en arriver à traiter de sujets différents dans des styles différents et faire en sorte que vous n'y trouviez aucune contradiction. Frères et sœurs, la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand vous réalisez que ceux qui ont participé à sa rédaction venaient de milieux différents et que vous mettez ces 66 livres ensemble, qu'ils ne forment plus qu'un seul livre, abordant un seul thème, celui du rachat de nos péchés, parlant d'un seul héros, la personne de Jésus-Christ, parlant d'un seul malin, le diable, et ayant un seul but, celui de glorifier Dieu, vous ne pouvez pas expliquer cela en dehors de la révélation divine. Dieu a parlé à des hommes. Dieu a mis par écrit sa parole. Voilà pourquoi on appelle ça les saintes écritures. Ce n'est pas l'écriture d'un homme, ce sont les saintes écritures. Amen. Parce que Dieu est saint. J'ai étudié ce livre depuis maintenant 34 ans et je n'ai jamais trouvé aucun vice caché à cette parole. J'ai plutôt trouvé des trésors cachés qui ont une valeur inestimable. La Bible est un livre remarquable, on peut la comparer à un manteau qui est fabriqué d'une seule pièce, sans couture et qui n'a aucune imperfection. Voici maintenant la quatrième raison pour laquelle je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement des prophéties, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que la Bible est le seul livre au monde qui prédit les choses avec précision? Seul Dieu peut prédire l'avenir. Personne d'autre en dehors de Dieu connaît l'avenir. Personne. Lui seul connaît le futur, frères et sœurs. Tous ces soi-disant médiums qui pullulent dans notre société aujourd'hui sont des charlatans. S'ils connaissaient le futur, frères et sœurs, ils seraient tous millionnaires parce qu'ils seraient en mesure de connaître le prochain numéro gagnant de la loto. Ce sont tous des charlatans. Vous les appelez, on vous demande déjà votre nom. Mais s'ils connaissent tout, pourquoi est-ce qu'ils me demandent mon nom? Pourquoi est-ce qu'ils me demandent ma date de naissance? Mais les gens sont tellement désemparés, tellement désespérés qu'on ne voit pas la manipulation qui se cache derrière ça. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui font confiance à ces charlatans plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu, dans laquelle non seulement on nous parle du passé, non seulement on nous parle du présent, mais on nous parle aussi du présent, de l'avenir et de ce qui va se passer, pour une partie de ce qui va se passer pour l'éternité. Ce qui a prophétisé, il y a littéralement des milliers de prédications prophétiques que nous retrouvons, que nous retrouvons dans la Bible. Certaines de ces prophéties sont tout à fait extraordinaires. Par exemple, dans Isaïe, chapitre 45, verset 13, Isaïe appelle le roi de Perse Cyrus par son nom, 125 ans avant même qu'il vienne au monde. Comment a-t-il pu faire? Vous lisez, vous dites, comment Isaïe a-t-il pu faire pour savoir que dans 125 ans, le roi qui va venir au monde va s'appeler Cyrus? Ce qui a été prophétisé est arrivé et va arriver, nous pouvons en être certains. Et certaines des prophéties les plus remarquables sont celles qui parlent du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ qui est le point central de toutes les prophéties. Il y a plus de 300 prophéties concernant uniquement le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament, et dire qu'elles se sont accomplies par chance est tout à fait impossible. Il y a même des gens qui osent dire, parce qu'ils renient la Bible, qui osent dire que Jésus, tout ce qui est arrivé à Jésus par rapport aux prophéties, c'est que Jésus a tout arrangé ça. C'est comme s'il avait demandé à deux malfaiteurs, le jour de sa crucifixion, « C'est pas de problème, vous voulez vous faire crucifier avec moi, c'est le temps. » Parce que c'est ce que les Écritures disent, non. Jésus n'a rien arrangé. Jésus n'était pas là pour arranger quoi que ce soit, sauf notre relation avec Dieu qui faisait défaut. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Mais pas pour nous faire croire n'importe quelle sorte de boniment pour qu'on croie un paquet de mensonges. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. C'est exclusif, hein? C'est radical, parce qu'on vit dans une société qui n'accepte pas l'exclusivité. Hey, t'es prétentieux de dire que Jésus, c'est la lumière. Ben, je suis pas prétentieux. Si tu veux dire qu'il va le dire à Jésus, prends-moi. Hein? C'est Jésus qui l'a dit. Hein? Oui, mais qu'il y a un seul chemin. Il peut y avoir différents chemins pour arriver. Non, mais ben, va le dire à Jésus. Moi, je ne te dis pas ce que je pense. Je te dis ce que je lis. Je te dis ce que je crois. Jésus dit, je suis le seul chemin. Hein? Et je suis la vérité. Jésus, il est quand même pas... lui, Bouddha, puis Mahomet, puis si... Écoute, tu peux croire ce que tu veux, mais Jésus dit, je suis la vérité. Là, pas une des vérités, là. Maintenant, si je ne crois pas nécessairement entièrement que ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est une parole que je vais remettre en question, celle de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous toute la différence, hein? Quand quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit, ouais, attends un peu, c'est un verset, oui, c'est vrai que Jésus l'a dit, mais écoute, il y a quand même d'autres choses de bon là, d'autres choses... De... Vous pouvez vous poser des questions, quelle est sa relation avec le Seigneur, hein, cette personne qui se dit chrétien, hein? Moi, j'aime mieux qu'on me passe pour quelqu'un qui est faible d'esprit, de croire en cette vérité. Parce que Jésus, depuis 34 ans, il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais déçu. Et je suis convaincu que quand il m'attend au ciel, qu'il va m'ouvrir la porte, qu'il va me tendre la main, comme il l'a fait pour Étienne, quand Étienne a été lapidé, dans Actes chapitre 7. Et qu'il va me dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Entre maintenant dans la présence de ton maître. Entre dans le repos éternel. Entre dans le paradis. Viens voir maintenant la demeure que je suis en train de te préparer. Et la demeure, elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. Paul dit qu'on habite dans une vieille tente, hein, dont les coutures s'usent. Et on le voit tous, hein, que les coutures s'usent. Hein. Nos rides nous rappellent qu'on ne rajeunit pas, mais qu'on vieillit. Hein. Et cette demeure aussi, hein, c'est ce corps glorifié dans lequel on va être revêtu pour l'éternité. Hein. Plus d'âge, plus les années ne comptent plus dans l'éternité. Il n'y a plus de vieillissement, un processus de vieillissement. La maladie n'existe plus, la mort n'existe plus parce que le péché a été détruit avec celui qui est derrière le péché, c'est-à-dire le diable. C'est un beau message, non? Hein? C'est un beau message. C'est encourageant. Dieu dit dans sa parole, le monde qui est à l'extérieur, ce n'est pas le monde que j'ai voulu, ça c'est le monde que Adam a choisi d'avoir sans moi. Je l'avais déjà averti des conséquences. Ce n'est pas une punition, la mort. Hein? Ce n'est pas une punition de Dieu. Hein? C'est une conséquence de la chute d'Adam. Hein? Dieu n'a pas dit, écoute, Adam, là, si tu commets un péché, je vais te faire mourir, non? Le jour où tu pécheras, tu mourras certainement. Ça va être ton choix. Et mon choix, c'est que tu passes l'éternité avec moi. Puisque je t'ai créé à ma ressemblance et à mon image. Et ça, c'est deux choses qu'un homme a perdu dans le jardin d'Éden. Hein? La ressemblance et l'image de Dieu. Voilà pourquoi les gens sont en crise d'identité. En crise d'identité, ils sont en recherche tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas retrouvé leur identité en Jésus-Christ, qui, lui, est sans péché, qui, lui, rassemble à la personne de Dieu, est à l'image de Dieu parce qu'il est Dieu fait homme. C'est en Christ qu'on retrouve notre identité, l'identité qu'Adam a perdue dans le jardin. Et les gens cherchent à travers toutes sortes d'autres choses. Toutes sortes d'autres choses. Par exemple, si vous prenez quelques-unes des prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ qui parle sur sa naissance et sur sa vie terrestre, vous constatez jusqu'à quel point celles-ci qui ont été prédites, d'une façon extrêmement précise. Certains ont eu l'audace... Bon, je vais passer par-dessus. Regardons, je vais regarder rapidement. 22 prophéties. Donc, la Bible a annoncé premièrement qu'il viendra au monde à Bethléem. Michée chapitre 5, verset 2. Que la mère qui la mettra au monde serait vierge. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Que quelqu'un le précéderait pour annoncer sa venue. Ésaïe, chapitre 40, verset 13, verset 3. Qu'il entrerait dans Jérusalem monté sur un âne. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Comment Jésus a-t-il pu le trafiquer, essayer d'organiser tout ça? Comment Jésus, avant d'en venir au monde, a pu prophétiser? Comment on aurait pu prédire qu'il viendrait au monde à Bethléem? Comment Jésus aurait-il pu truquer que ça tant et si longtemps qu'il n'était pas venu au monde? Parce qu'il est Dieu, hein? Il fait ce qu'il veut, hein? Il fait ce qu'il veut. Et il connaît toutes choses d'avance. Donc, il pouvait prédire les choses d'avance. Hein. Et frères et sœurs, ce qu'il a prédit, hein, ça s'en vient. Ce qu'il a prédit, ça s'en vient. Hein. Regardez le signe des temps. Je lisais l'évangile de Luc ce matin. Hein. C'est terrifiant ce qui s'en vient. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est terrifiant. Hein. Il a dit qu'il va y avoir une terreur qui va se répandre sur la terre comme jamais ça s'est vu depuis le début de la création. Hein. Et regardez, là, les gens commencent à paranoïer. Hein? Hein, tu te promènes dans une galerie, tu ne sais pas si quelqu'un a pas mis une bombe dans une poubelle. Hein? Tu ne sais pas si quelqu'un va arriver avec un camion pour écraser tout le monde. Hein? Hey, les gens paniquent quand vous parlez avec les gens du monde. Ils paniquent, les gens. Hein? Mais moi, je me dis, peu importe ce qui se passe dans le monde, hein? Dieu m'a déjà annoncé ce qui va arriver. Il y aura des famines, des tremblements de terre, des épidémies. Ouais, Dieu m'a déjà annoncé. Je n'ai pas à trembler. Hein? Je fais confiance à Dieu. Et si Dieu doit venir me chercher maintenant, ben je sais où je m'en vais, quoi. Je rentre dans sa présence. C'est fini les souffrances pour moi. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas me faire mes jours parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie et de la mort. C'est lui qui m'a mis au monde et c'est lui qui va me reprendre. Mais je sais une chose, c'est que le jour où il viendra me chercher, ben ce sera la meilleure chose qui pourra m'arriver dans ma vie. Hein. Mes frères et sœurs, il faut parler avec les gens du monde pour voir comment ils sont désespérés, comment ils sont découragés. C'est épeurant quand tu ne sais pas où tu t'en vas puis que tu te promènes sur la rue sans savoir s'il y a une bombe qui t'éclate dans le visage ou s'il n'y a pas un cinglé qui va arriver avec un poignard pour venir te poignarder ou te tirer une balle dans la tête. Hein. Ben, c'est énervant, quoi. Moi, si je ne connaissais pas le Seigneur, je ne sortirais pas souvent de chez moi. Hein. Je me ferais peut-être même livrer mes courses à la maison. On vit dans un monde, mais totalement fou. C'est pas fini. Hein. La Bible nous dit que ça va aller en augmentant. C'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Hein. Le commencement. Que Jésus entrerait dans Jérusalem, monté sur un âne, Zacharie chapitre 9, verset 9. Mais écoutez bien ceci. En fait, Jésus est entré dans Jérusalem le jour exact que Daniel avait prédit des centaines d'années plus tôt. S'il devait rentrer à Jérusalem un mardi, ça avait été annoncé qu'il rentrerait un mardi, non pas un mercredi. Comment Daniel a-t-il pu? Vous pensez qu'il a lancé des fléchettes sur une cible pour dire, ah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cling. Dieu y a dit, Dieu y a annoncé. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Des années auparavant, on avait annoncé que celui avec qui il partagerait son pain, qu'il considérait comme étant un ami, le trahirait. Le psaume 41,9, repris dans Matthieu chapitre 26, verset 15. Le psalmiste mentionne qu'aucun de ses os ne serait brisé. Les deux malfaiteurs ont vu leurs os brisés sur la croix. Jésus est mort avant, aucun de ses os n'a été brisé. Ça avait été prophétisé longtemps d'avance. Le psalmiste mentionne que son corps ne se décomposerait pas. Psaume 16,10, comment David pouvait-il dire, sachant que tous les mortels tombent en poussière, comment pouvait-il dire que le corps de Jésus ne se décomposerait pas? Parce que Dieu lui a révélé, parce qu'il est le seul à connaître l'avenir. Lorsque vous lisez le psaume 22, allez dans le psaume 22, je vais vous donner quelques bonnes prédictions qui sont avérées. Et c'est effarant, quoi. Frères et sœurs, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et j'espère que vous allez sortir d'ici, si vous croyez que c'est la parole de Dieu, plus ou moins, que vous allez partir d'ici en sortant avec en disant, plus jamais, jamais, je vais remettre en question la révélation qui se trouve dans la parole de Dieu, parce que ce matin, je sais dans mon cœur que c'est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez le psaume 22, vous avez l'impression que David, écoutez bien ce que je vous dis, vous avez l'impression que David est au pied de la croix et qu'il assiste à la scène. Il décrit cette scène d'une façon incroyable. Il mentionne au verset 2 une des sept paroles que Jésus va prononcer sur la croix. Et David vit des siècles, mais des siècles avant la venue de Jésus. Comment a-t-il pu savoir que Jésus prononcerait ces paroles sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a même pas dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous cite les paroles mêmes que Jésus va prononcer des siècles plus tard. Comment David peut-il avoir su cela si ce n'est pas que Dieu lui a révélé? Versets 7 et 8, il parle de tous ces gens qui seront présents lors de la crucifixion et qui se moqueront de Jésus. Au verset 9, il cite une phrase que la foule prononcera au moment de sa crucifixion. Au verset 16, il souligne que ses mains et ses pieds seront percés. Mais regardez, rappelez-vous qu'au moment de David, la peine de mort chez les Juifs, c'est la lapidation, pas la crucifixion, puisque la crucifixion n'existait pas. Comment peut-il dire que Jésus aurait les mains et les pieds cloués, si ce n'est pas que Dieu lui a révélé, puisque les Juifs tuaient quelqu'un avec des pierres? On lapidait. Au verset 18, David dit qu'ils allaient tirer au sort ses vêtements. Comment a-t-il pu savoir qu'on tirerait les vêtements de Jésus au sort? Dans les derniers versets, David fait référence à son règne futur. Vous lirez à la maison, Isaïe mentionne dans Isaïe chapitre 40, tournez dans Isaïe chapitre, juste après les psaumes. Tout de suite après le livre des psaumes, vous avez le livre d'Isaïe, rendez-vous au chapitre 50. Chapitre 53, verset... J'ai dit 50, hein? Oui, 50. Isaïe mentionne au chapitre 6, dans le chapitre 50, verset 6, pardon, qu'on cracherait au visage de Jésus et qu'on le battrait. On cracherait au visage de Jésus et on le battrait. Comment a-t-il pu deviner ça si ce n'est pas une révélation de Dieu? Isaïe, chapitre 53, verset 5. Que ses ennemis le blesseraient. Isaïe, chapitre 53, verset 7, qu'il garderait le silence devant ceux qui l'accusaient. Et la parole nous dit dans les évangiles qu'il n'a point ouvert la bouche. Et ça, c'est un bon exemple qu'on devrait prendre quand quelqu'un nous insulte parce qu'on croit en Jésus. Et j'ai encore besoin d'apprendre. Moi, je dégaine assez rapidement avec ma langue. Hein. Mais j'ai besoin d'apprendre encore à... Les apôtres dans le livre des Actes se sont réjouis d'avoir été persécutés pour le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on vous insulte parce que vous croyez en Jésus, ben dites-vous une bonne chose, c'est que vous êtes le reflet de la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on vous insulte. Si on vous déteste parce que vous dites appartenir à Jésus, c'est parce que vous reflétez la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on vous déteste. Parce que Jésus a dit, on m'a haï, le premier, on va aussi vous haïr. On m'a rejeté, on va aussi vous rejeter. Et si dans votre famille, encore, en tout cas dans la mienne, c'était ça, on m'a isolé un peu parce que je ne pensais plus comme mes frères, mais le Seigneur il dit, ils m'ont rejeté, ils vont aussi vous rejeter. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent même pas pourquoi ils nous rejettent. Mais on est une lumière parmi les ténèbres. Et les gens voient que notre façon de vivre, elle est différente, notre espérance, elle est différente. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que les membres de notre famille viennent à la connaissance de Jésus. Comme nous, on est venus à la connaissance de Jésus. C'est un miracle de venir à la connaissance de Jésus, hein? C'est un miracle que vous ayez pu entendre l'Évangile un jour. Et que hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein. Que vous ayez entendu cet Évangile, que la foi finalement a pris racine dans votre cœur, et que là finalement vous vous êtes vu tel que vous étiez, comme un pécheur perdu, et que Dieu vous donnait la solution en Jésus-Christ pour être sauvé de vos péchés. C'est extraordinaire ça. Prions pour les membres de notre famille qui ne le connaissent pas encore. Prions pour les gens du monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Prions pour les gens du monde qui souffrent parce qu'ils ont été trahis, abusés. Et quand on faisait du porte-à-porte il y a deux semaines, je demandais aux gens quelle est la plus grande souffrance que les gens peuvent vivre dans leur vie. Hein. Et les gens, ils se mettent à pleurer parce que finalement, ils vous racontent leur grande souffrance à eux. Hein. Ah, avoir été abandonné par un mari, avoir été abandonné par une femme, avoir été abusé, avoir été trahi. Mais il y en a une liste, la liste, c'est une liste d'épicerie, quoi. Elle est longue. Hein. Elle est longue. Ouais. Et nous qui sommes chrétiens depuis des années, on sait que le Seigneur ne nous a jamais trahis. Hein. Lui, on l'a trahi. Mais lui ne nous a jamais trahis. Et il ne nous trahira jamais parce qu'on sait que le Seigneur, je l'ai dit tantôt, il est le même aujourd'hui, il est comme il était hier et comme il sera demain. Notre Seigneur, il ne change pas. Notre Seigneur, il n'a pas un cœur tortueux parce que le mal n'habite pas en lui. Et tout ce qu'il veut, hein, c'est de nous sauver. Ce n'est pas juste votre bien, c'est nous sauver. Nous sauver. On n'est pas en thérapie que le Seigneur. Hein. Thérapie nous font du bien. Ah, et je dois confesser, ça fait du bien les thérapies, mais ça ne sauve pas personne. Ça n'amène pas les gens de passer de la mort à la vie. Et on n'est pas là pour rentrer en thérapie avec les gens, on est là pour partager l'Évangile qui bouleverse, qui transforme, qui change les vies, parce que l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 53, verset 9, « Qu'il sera enseveli dans le tombeau d'un homme riche. » Qui a dit ça à Ésaïe? Jésus n'avait pas d'argent. Comment Isaïe, des siècles avant Jésus, peut affirmer et prédire que Jésus serait enterré dans un tombeau, le tombeau d'un riche? Isaïe, chapitre 53, verset 12, qu'il serait crucifié avec des malfaiteurs. Et qui a dit à Isaïe que Jésus serait crucifié avec des malfaiteurs? C'est Dieu qui lui a révélé. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 11, verset 12. Qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent. Pas 50, pas 60, 30 pièces. Et Judas l'a trahi pour combien de pièces? 30 pièces. Comment Zacharie peut-il savoir cela et écrire cela? Parce que Dieu lui a révélé. Dieu seul connaît l'avenir. Amen. Zacharie, chapitre 12, verset 10, que son côté sera percé. Qui a pu dire à Isaïe? Pourquoi ne pas se contenter de dire, bien, c'est vrai, il va avoir des trous dans les mains, dans les pieds. Pourquoi aller oser dire en plus qu'il serait... On n'avait pas besoin d'être percé du côté. Il reçoit une révélation de la part de Dieu. Dieu lui dit, mon fils, il va être transpercé dans le côté. Eh bien, c'est arrivé, hein? Eh bien, qui a dit ça à Zacharie? Sinon Dieu qui connaît l'avenir. Que les ténèbres couvriraient la terre au moment de sa mort. On dit qu'il a fait noir partout sur la terre quand Jésus est mort, a rendu son dernier souffle. Amos, chapitre 8, verset 9. Comment a-t-il pu savoir cela? C'est parce que Dieu lui a révélé. Extraordinaire, notre Dieu, non? Amen. Quelqu'un a calculé que les chances... Écoutez, je vais vous faire faire du calcul, là. Quelqu'un a calculé que les chances que ces 22 prophéties que je viens de vous citer puissent se réaliser par hasard sont d'une chance... sur 480 milliards multipliés par 1 milliard multipliés par 1 trillion. Je vais vous faciliter la tâche. C'est 480 et ajoutez 30 zéros à côté pour que ces prophéties puissent être le fruit du hasard. Selon que cela correspond à prendre un grain de sable, le peindre de couleur or et cacher ce grain de sable quelque part parmi les milliards d'étoiles et les nombreuses planètes qui se trouvent dans le ciel, puis de bander les yeux d'une personne et de l'envoyer dans l'espace en lui demandant de retrouver ce grain de sable. Les chances qu'elle puisse le trouver sont de 480 suivies de 30 zéros. Que dit la Bible au sujet de toutes ces prophéties? Matthieu le résume très bien dans Matthieu chapitre 6, 26, verset 56. Tout cela est arrivé afin que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Tout ce qui est arrivé à Jésus... eh bien, est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Il n'y a aucun autre livre qui connaît l'avenir, et il n'y a personne qui connaît l'avenir et révéler l'avenir en dehors de ce que Dieu révèle. La Bible n'est pas le livre du mois, frères et sœurs, la Bible est le livre de toutes les époques. Lorsque Pierre écrit dans sa première épître que la parole du Seigneur demeure pour toujours, cette parole est celle que la bonne nouvelle nous a été apportée. Aucun livre n'a jamais eu autant d'opposition que la Bible. Les hommes l'ont ridiculisé, les hommes l'ont dédaigné, les hommes l'ont rejeté, les hommes l'ont brûlé et voté des lois pour empêcher qu'elles soient imprimées ou lues. Mais la parole de Dieu a toujours survécu à toutes les attaques. Son contenu est aussi valable et applicable aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes comme il l'était dans le passé et comme il le sera demain. La Bible est d'une profondeur insoupçonnée à tel point que les théologiens peuvent continuer à nager dedans et ils ne toucheront jamais le fond. Pourtant, aussi profonde que puisse être la Bible, un petit enfant pourrait venir prendre un verre d'eau sans craindre de se noyer. C'est la sainte parole de Dieu, si précieuse pour chacune de nos vies. Frères et sœurs, apprenons à la connaître davantage afin de consolider notre foi, afin d'approfondir notre connaissance de la personne de Jésus-Christ concernant son amour pour les perdus, ce qu'il fait pour nous sauver du péché, du jugement à venir et les projets qu'il a pour vous et moi. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est des belles paroles, ça, hein? Des belles paroles, hein? Il y a tellement de monde qui ont projeté des malheurs dans ma vie depuis que je suis au monde, hein, jusqu'à maintenant. Et de savoir que les projets que Dieu a pour moi, c'est des projets de bonheur et non pas de malheur. C'est extraordinaire. Je rends grâce à Dieu pour cela. C'est encourageant. Ça nous encourage à continuer à avancer dans la vie. S'il y a des gens qui nous souhaitent des malheurs, on peut avoir la certitude que Dieu a des projets de bonheur, que des projets de bonheur pour nous. Et lorsque vous êtes en train de lire la Bible, votre Bible, vous êtes en train de lire la parole de Dieu, et Dieu souffle dans votre cœur les réponses dont vous avez besoin. Vous pouvez mettre votre foi en elle. Hébreux chapitre 11, verset 1. Car c'est à cause de leur foi passée que les hommes ont été approuvés par Dieu. À cause de leur foi passée que les hommes ont été approuvés par Dieu. La foi, du début jusqu'à la fin, c'est par la foi. Vous voulez savoir où vous voulez passer l'éternité, vous allez passer l'éternité, lisez la Bible. Vous pouvez faire confiance dans ce qu'elle révèle concernant l'au-delà. Vous pouvez accepter son message, sachant qu'elle révèle même la pensée de Dieu à l'homme. Elle ne se trompe jamais, donc elle ne vous induira jamais en erreur. Elle ne sera jamais modifiée, elle ne sera jamais mise à jour, elle est complète et parfaite. Amen. Je termine avec ceci, j'espère que je n'ai pas été trop académique et que ce message a servi à vous aider, à vous accrocher davantage à la sainte parole de Dieu pour ce qui concerne, en ce qui concerne votre foi, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour sa parole qui est parfaite et je lui suis reconnaissant que ce livre a révélé non seulement le péché qui habitait en moi, mais que je me dirigeais tout droit en enfer. Je rends aussi grâce à Dieu d'avoir éclairé mon cœur. Afin de me permettre de me voir non seulement tel que je suis et me faire connaître mon besoin, mais de m'avoir révélé la personne de Jésus-Christ, la solution à tous mes problèmes, la solution à tous vos problèmes. Et on peut le louer ce matin. On va se lever, on va chanter un dernier cantique. Je vais inviter les musiciens.